Bonsoir à tous, Yapouba Ouidraougou avec vous pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires chers auditeurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc on a Thierry Kamp. Et donc d'ici là Thierry Kamboundi de Top Congo FM et Élisée Mpatine vont nous rejoindre. Merci messieurs de votre présence. L'Espérance sportive de Tunis est désormais trois fois championne d'Afrique en 1994, 2011 et récemment en 2018. L'Espérance a ajouté une troisième Ligue des champions à sa vitrine de trophées. Le club tunisien a battu le géant égyptien Al Ahly par 3-0 au stade olympique de Rhodes. Le match allait se solder par le score de 3-1 en faveur d'Al Ahly à Alexandrie une semaine plus tôt. Amine, ce fut une véritable remontada.
Par la presse tunisienne, il faut se rappeler que l'Espérance avait fait plus que jeu égal avec l'Ali à l'aller et qu'il y avait eu d'énormes erreurs d'arbitrage qui avaient lésé l'équipe tunisienne. Il y avait déjà eu quelques sanctions prises par la CAF, notamment à l'encontre de l'attaquant marocain Walid Azaro qui avait été suspendu deux matchs pour comportement antisportif. Autre fait majeur qui a fait remonter un peu les actions du club tunisien, le fait de permettre de rouvrir une tribune qui avait été suspendue par la CAF du stade olympique de Rhodes. Ça a permis au stade d'avoir une capacité maximale et donc d'être à 50 000 supporters lors de cette finale retour. Et puis, la presse tunisienne a joué sur les nerfs des joueurs égyptiens, préparant la rencontre de manière très subtile. Les Égyptiens sont venus avec le sentiment d'avoir déjà gagné la Coupe d'Afrique et ils n'ont jamais donné l'impression de pouvoir réagir lors de cette finale. Sur le plan du jeu, on a vu un pressing de l'équipe tunisienne d'entrée de jeu, ce qui a compliqué la tâche de l'équipe égyptienne qui ne s'est pas procuré la moindre occasion de scorer tout au long de la rencontre. Et puis, psychologiquement, les buts qui ont été marqués par l'équipe tunisienne sont arrivés à des moments clés. Avant la fin de la première mi-temps, plus exactement à la 44e minute par le meneur de jeu Saïd Guir, au début de la seconde période par le même joueur, et puis en toute fin de rencontre par Wissem Bedri, le buteur de cette Ligue des Champions, avec une réalisation, une superbe frappe croisée qui n'a laissé aucune chance au portier Chinaoui. De l'autre côté, on a vu une équipe égyptienne timorée, sans quelques-unes de ses pièces maîtresses, elle n'a jamais donné l'impression de pouvoir remporter cette finale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Ali, qui avait survolé la compétition, qui avait battu l'équipe de l'Espérance en phase de groupe à Rhodes, est venu avec un excès de confiance latent, un excès de confiance qui lui a jamais permis de rivaliser physiquement avec les Tunisiens qui ont exercé un pressing impressionnant. Des Tunisiens qui avaient la grinta, qui avaient la rage de vaincre. Aujourd'hui, l'Espérance fait partie des équipes qui ont remporté au moins trois fois la Ligue des champions africaines. Il y a en Afrique du Nord l'Ali avec ses 8 titres. Il y a le Zamalek avec ses 5 consécrations. Il y a aussi le Raja de Casablanca avec ses 3 accessibles. Il y a aujourd'hui l'Espérance sportive de Tunis qui a mis longtemps à pouvoir retrouver les lustres du football africain, puisqu'on rappelle que sa dernière consécration remonte à l'année 2011. C'était une finale entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca.
Merci bien, Amine. Alors, Jules, je me rappelle que vous disiez lundi dernier que c'était encore possible pour les Tunisiens. Malgré le 3-1 du match aller, ils l'ont fait.
Oui, bien sûr. Et surtout, sachant que le football tunisien est un football qui... ne convient pas aux Égyptiens qui ont l'habitude de surprendre les footballeurs égyptiens, même à la grande époque du grand El Ahly, de la grande équipe d'Égypte. Et pour la bonne raison que, tactiquement, les Tunisiens ont une culture beaucoup plus rodée que les Égyptiens. Ils savent faire des jeux l'adversaire, c'est ce qu'ils ont fait pendant cette finale, en adoptant une attitude très tactique et notamment très physique au milieu du terrain qui a empêché les Égyptiens de soigner leur transmission et donc de faire le jeu collectif et basé sur un jeu de décalage au milieu du terrain qui leur réussit d'habitude. Alors, à partir de ce moment-là, les Tunisiens pouvaient en quelque sorte mettre leur empreinte sur le jeu et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc bénéficié également d'un scénario favorable, comme l'a dit Amri tout à l'heure. Et pour cela, et le timing des buts est parfait et il leur mettait la possibilité de en place, disons que plutôt ça y a la.
On va essayer de reprendre Jules, parce que la communication se dégrade un peu là. Alors, le premier but, hein, Jules le disait tout à l'heure, Tunisien a été réalisé au bout de la première période, 45e plus 2, par Saïd Bedji. Le deuxième but, au début de la seconde partie, à la 54e, encore une fois par Saïd Bedji. Mieux encore, le club tunisien a inscrit un troisième but spectaculaire, d'ailleurs à la 86e, grâce à Anis Badri. Alors, Élysée, ce fut un scénario parfait pour l'espérance de Tunis.
Oui, Yacouba, il faut le dire, puisque c'était pas gagné d'avance, hein, suite à cette défaite de 3-1 à l'aller. Les Égyptiens étaient venus comme grands favoris du côté de Tunis, maintenant avec comme capacité, un stade comme qui a une capacité 60 000 places. Il faut le dire, puisque le public sportif tunisien a poussé l'espérance jusqu'à la victoire. Et le bon scénario, c'était d'abord le but inscrit juste avant la pause, hein. Donc ce but a redonné l'espoir aux espérantistes, hein, qui ont poussé, puisqu'ils ont pressé énormément l'équipe égyptienne, qui était méconnaissable, hein, vendredi dernier, il faut l'avouer, puisque le national du Caire n'existait pas du tout. Le schéma tactique déployé par Patrice Carteron n'a pas marché devant les locaux. Eh bien, l'ascension est nette, puisque un second but est survenu quelques minutes plus tard, juste après la pause, et puis voilà, il fallait sortir pour aller marquer le but qui pourrait permettre aux Égyptiens de remporter cette coupe. À force de pousser bien, et se sont fait découvrir derrière, eh bien, le troisième but marqué a donné, bien sûr, cette coupe à l'équipe d'Espérance de Tunis, qui a largement mérité cette victoire. Et l'équipe avait deux joueurs suspendus, mais ça ne s'est pas fait du tout remarquer sur le terrain, puisque l'Ivoirien Koulibaly, dans l'entre-jeu, a fait un travail énorme à la récupération, ce qui a permis à l'équipe d'Espérance de Tunis de ratisser beaucoup de ballons du terrain, de mettre la pression sur l'équipe égyptienne. Et au finish, on connaît bien sûr le résultat, 3-0, un titre, un troisième titre pour les 100 et or, qui quand même ont mérité, et espérons qu'ils vont bien valablement représenter le continent africain à la prochaine Coupe du Monde des clubs.
Merci bien, Élysée. Al Ahly a évolué sans Walid Azarou pour la finale et retour. L'attaquant marocain a été suspendu pour 2 matchs pour comportement anti-sportif lors de la finale aller. Il avait déchiré volontairement son maillot pour induire l'arbitre de la rencontre en erreur. Alors, Amdine, une double question. La sanction est-elle proportionnelle à l'acte? Et l'absence d'Azarou a-t-elle paralysé Al Ahly, quand on sait quand même qu'il a été le fer de lance de la victoire du national au match aller?
Tout à fait, Yacouba. D'abord, je voulais revenir sur le match, parce que, comme on le sait, les matchs aller-retour, c'est comme un match de football où il y a 2 périodes. Et les Sang et Or ont négocié la seconde période à merveille. Hein. Amine l'a dit tout à l'heure, ils ont su marquer vraiment au bon moment. Par exemple, tout juste avant la mi-temps et au début de la seconde période. Avec 2-0 déjà, ils avaient la possibilité de gagner cette coupe. Et ils ont terminé. Et le troisième but, c'est la série sur le gâteau, quoi. Pour revenir à la suspension, moi, je pense que c'est mérité, parce que au niveau de l'arbitrage et au niveau des règlements aussi du football, il y a un délégué de match, un commissaire de match. C'est à lui de faire un rapport bien détaillé. C'est à partir de ce rapport que les membres de la commission règlement et discipline se sont basés quand même pour le suspendre. Moi, ce que je regrette simplement, au niveau de l'Afrique, il y a maintenant un arbitrage à double vitesse, parce que, bon, laisser quelqu'un tricher, je pense que comme il y avait l'arbitrage vidéo, c'est en ce moment même qu'on devait le sanctionner et revoir aussi son comportement. Mais on l'a fait. Mais comme on dit, comme le dit Larage, mieux vaut tard que jamais. Il a été sanctionné, c'est bien. Les Tunisiens également ont bien négocié, hein, cette seconde, ce match autour. Je pense que ce n'est que justice pour eux, puisque en sport, il faut quand même respecter les règles. Les Tunisiens n'avaient pas à se comporter comme ils l'ont fait lors de la match. Allez, heureusement, le sport a gagné, puisque la victoire est nette et sans bavure. Et je pense que les 100 euros vont bien représenter l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Yacouba.
Merci bien, Amdine. Alors, depuis le match aller, Amdine l'évoquait, la CAF a fait recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage pour la première fois dans une finale d'une compétition africaine. Thierry, déjà bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Alors, malgré l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, il y a eu des contestations au match aller. Quelles leçons tirer finalement de ce système d'arbitrage dans le contexte africain?
Ouais, c'est un système qui est en train de se mettre en place sur le continent, comme un peu partout dans le monde du football. On a tout souligné avant, même tout au long de la Coupe du Monde, le bien de ce système. Rappelez-vous d'ailleurs du match d'hier entre Monaco et le Paris Saint-Germain, au cours duquel on a eu à recourir à 4 reprises à la VAR pour se rassurer des bonnes décisions à prendre par les officiels. C'est un système, je l'ai dit, qui est en train de se mettre en place pour la première fois en Afrique avec tout ce que nous pouvons connaître comme difficultés. Je pense qu'il va plutôt aider les arbitres à être plus pointilleux sur leur prise de décision. Il sera question que les acteurs soient plus compréhensifs car il arrive pour aider le football à avancer plus que toute autre chose, même si on avait souligné ce côté qui pouvait un peu faire en sorte que la décision prenne un peu plus de temps, ce qui découragerait, ce qui ralentirait un peu le jeu. À Kinshasa, d'ailleurs, il y a un grand débat autour de la VAR qui sera pour la première fois installée au Stade des Martyrs à la faveur de la finale retour de la Coupe de la Confédération entre l'ASV Club et le Raja de Casablanca. Donc nous, Kina, nous apprêtons également à expérimenter cette VAR qui, finalement, avec l'habitude ici en Afrique, sera, comme en Europe, va s'intégrer à nos habitudes et va permettre surtout aux officiels sur ce continent où certaines décisions arbitrales ont provoqué beaucoup de dégâts dans nos stades, aux arbitres donc de prendre des décisions plutôt qui vont dans le sens du jeu et à l'avantage du football.
On le rappelle, l'Espérance sportive de Tunis est du même coup qualifiée pour la prochaine Ligue des champions selon le nouveau règlement de la CAF qui veut que le champion en titre soit automatiquement qualifié pour l'édition suivante. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Toujours sur le continent, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 commence vendredi prochain et se poursuivra jusqu'au 18 novembre. Il y a de gros enjeux pour beaucoup de pays qui peuvent valider leur ticket pour Cameroun 2019. Dès cette 5e et avant-dernière journée, on le rappelle, le Sénégal, Madagascar, l'Égypte et la Tunisie se sont déjà qualifiés lors de la 4e journée, en plus du Cameroun, bien sûr, pays hôte. Du coup, les matchs de la poule A se sont transformés en une lutte pour la suprématie dans le groupe et bien sûr aussi pour l'honneur pour d'autres. Amdine, alors, on aura un certain Guinée-Équatoriale-Sénégal.
Oui, Guinée-Équatoriale-Sénégal, ce sera un match de revanche. Parce qu'on se rappelle, en 2012, le Sénégal s'était déplacé en Guinée-Équatoriale à Bata. Pourtant, le Sénégal avait fait quand même un parcours extraordinaire en réalisant un grand chelem. 6 matchs de victoire lors des éliminatoires. Arrivé à Bata lors des phases finales, le Sénégal avait perdu ses 3 matchs et le Sénégal a été éliminé par la Guinée équatoriale. Donc, il y aura un parfum de revanche par rapport à cette rencontre. Mais il faut dire que ce match est également important pour le Sénégal parce que l'enjeu aussi, c'est la première place du groupe, mais également les points pour le classement FIFA, ce qui est très important parce que lors de la du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, on va se baser sur l'indice UEFA. Quand même pour les chapeaux, c'est tellement important. C'est important aussi également pour l'entraîneur Aliou Cissé, qui cherche une équipe depuis la Coupe du Monde. Bon, il y a eu une grande lésive, parce qu'Aliou Cissé n'a pas convoqué 5 joueurs qui ont pris part à la Coupe du Monde depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il est en train d'essayer d'autres joueurs comme Edouard Mendy, le gardien de Reims. Donc, on va lui donner, ce sera une opportunité pour lui donner la nationalité sportive du Sénégal. Donc, c'est certainement lui qui va garder les cases. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Certes, le Sénégal est qualifié, mais ce match a beaucoup d'enjeux. Revanche pour les Sénégal contre le Madagascar. Se maintenir à la première place pour pouvoir quand même garder des points au niveau du classement FIFA. Donc, ce match est important pour Aliou Cissé et les Sénégalais. Yacouba.
Le Sénégal déjà qualifié, le Maroc pas encore, et le Rouen Chérifien voudra gagner face au Cameroun pour éviter les supplices d'une dernière et chaude journée. Amine, La bonne nouvelle hein, pour les Lions de l'Atlas, c'est aussi le retour du capitaine Mehdi Benassia parmi les siens.
Le retour de Benassia qu'on n'avait plus vu depuis Maroc-Portugal et depuis un coup de gueule qu'il avait poussé à l'encontre de certains membres du staff technique de l'équipe du Maroc. Depuis lors, il y a eu des pourparlers avec Hervé Renard qui est allé le voir plusieurs fois à Turin pour essayer de le persuader de revenir, de retrouver la sélection. Une équipe du Maroc qui sera quasiment au grand complet puisque d'autres joueurs qui avaient manqué à l'appel lors de la double confrontation face aux Comores seront là, comme le joueur de Charles Kanim Harit. Quelques revenants comme Soufiane Boupal, le joueur du Celta Vigo qui avait manqué la dernière Coupe du Monde, et puis un match aux allures de revanche. Tout d'abord parce que le Maroc avait subi une défaite lors de la première journée éliminatoire de la CAN à Yaoundé sur un but de Vincent Aboubakar. L'équipe du Maroc était déjà amoindrie par plusieurs absences, notamment celle de Benatia. Et puis, sur le plan historique, le Cameroun est un peu la bête noire du football marocain. L'équipe du Maroc n'a jamais battu un match officiel ou amical la sélection camerounaise. D'ailleurs, les statistiques depuis 1981 sont éloquentes. 11 confrontations, 0 victoire, 5 nuls et 6 défaites face aux Lions indomptables. Autant dire que ce match pourrait avoir des allures de grande première pour une équipe du Maroc qui sera soutenue par son public au complexe Mohamed V de Casablanca, un public qui attend un tout autre comportement de la part de l'équipe du Maroc, puisqu'on se rappelle que les Lions de l'Atlas avaient peiné pour battre les Comores à domicile, avaient 1-0 et avaient tout de même concédé un nul in extremis à Moroni face au maillon faible du groupe. Une victoire signifie également une qualification pour la CAN qui serait presque assurée. Voilà les enjeux d'une confrontation où le Cameroun ne viendra pas en victime expiatoire. Les Camerounais ont su tirer leur épingle du jeu. Ils préparent sereinement la CAN qu'ils devraient organiser chez eux. Et puis, il y a un nouveau staff technique plus expérimenté, plus rodé, peut-être aux joutes européennes. C'est le cas du sélectionneur Clarence Seedorf et de son adjoint Patrick Mignot.
Dans le groupe C, le Gabon reçoit le Mali leader du groupe. Aubameyang a été convoqué par Daniel Cousin. On le sait, l'attaquant d'Arsenal, élu un meilleur gunner du mois d'octobre, avait refusé de se rendre au Soudan lors de la 4e journée. Alors, Jules, il devra porter les panthères pour éviter toute surprise désagréable avec le Burundi en embuscade derrière.
Et bien sûr, parce qu'ils sont deuxièmes de leur poule et que justement, ils garderont leur destin entre les mains en ayant une victoire contre le Mali, qui lui par contre rencontre le dernier du groupe de Sudan du Sud à la dernière journée et qui a un parcours beaucoup plus simple. Donc, les Gabonais n'ont pas droit à l'erreur, ils doivent essayer de faire la différence à cette rencontre. Et même un match nul ne serait pas un excellent résultat. Je pense que le Gabon viendra d'abord jouer, disons, absolument dans une disposition très réaliste, sachant que face au Mali, il a toujours des difficultés et le plus souvent engrangé des matchs nuls. Donc, c'est un des matchs les plus importants de cette journée.
Merci bien, Jules. Dans le groupe D, les écureuils se déplacent en Gambie. Élisée, il faudrait aller chercher un résultat pour garder intact les chances de qualification.
Oui, Yacouba, il faut le dire, puisque le Bénin a désormais son destin en main. Et une victoire passe par là, puisque les Béninois ont le droit de faire un bon résultat du côté de Banjul. Ne serait-ce qu'un match nul, espérer une défaite, c'est vrai, on ne peut pas souhaiter, mais une défaite du Togo face à l'Algérie à Lomé sera les affaires des Béninois. Mais pour l'heure, il faut dire que tous les joueurs ont déjà répondu, presque tous les joueurs ont déjà répondu à l'appel du sélectionneur. Ils se sont déjà entraînés de cet après-midi au stade de l'amitié de Cotonou. Et le tout nouveau, Sergio Soukou qui évolue en troisième division allemande, il s'agit de Sergio Soukou. Il évolue du côté de Hansa Rostock. Il a foulé le sol, c'est nous pour la première fois de sa vie. Il est peut-être curieux de le connaître. Il s'est vite adapté, j'allais dire, puisqu'il y a déjà un groupe au complet. C'est vrai que Koukou Dima a revient en sélection depuis que Michel Dessier est présent, puisqu'il a déjà un club, puisqu'il était sans club, il a trouvé un club du côté de la Roumanie, la première division. Et ce sera une mission très consciente de l'enjeu. Le sélectionneur a dit, vendredi dernier, en conférence de presse, que le Bénin va chercher probablement sa qualification du côté de Banjul. C'est vrai qu'il n'a jamais joué contre la sélection gambienne, mais c'est une opportunité pour lui de montrer que le Bénin Bénin a largement mérité sa victoire face à l'Algérie. Maintenant, comme c'est sûr, qu'on connaît très bien, il connaît bien sûr le football béninois. C'est quelqu'un qui va vouloir réagir suite à sa défaite à l'équipe contre le Togo. Ça va être un match très difficile, mais le plus difficile, c'est d'aller chercher un résultat positif, je l'ai dit. Un match nul arrangerait les Béninois lors de la jeunesse, mais puisque ce sera de l'équipe contre le Togo.
Merci bien, Élisée. Il y a aussi un duel entre le deuxième, l'Afrique du Sud, et le premier, le Nigeria, dans le groupe E. Un nul suffira aux Super Eagles pour se qualifier. Mais surtout, il y a ce duel congolais entre la RDC et son voisin congolais. On note le retour de Trésor Mputu, convoqué par Florent Ibengué, pour ce duel congolais, Thierry.
Évidemment, hein, ce derby du fleuve Congo, comme on l'appelle ici, sera marqué par le retour du très attendu Mputu-Mavi Trésor, 5 ans après sa dernière sélection avec les Léopards, Florent Ibengué, qui l'a convoqué à nouveau après la défaite de l'AFC Club qu'il dirige devant Mazembe à Lubumbashi, a justifié la présence de Trésor Mputu dans son groupe. Florent Ibengué qui est en train en ce moment de réunir ses joueurs qui viennent un peu de partout. Lui qui a par ailleurs enregistré quelques forfaits, hein. Ce n'est pas encore confirmé, mais on note entre autres que Cédric Bakambu, blessé avec son club en Chine, sera parmi les probables absents de cette rencontre. Il sera préparé ici à Kinshasa avant la traversée vendredi pour Brazzaville. Une rencontre très attendue qui sera capitale à défaut d'être déjà décisive car les deux Congo sont à un point près de différence et se disputent derrière le Zimbabwe. Le deuxième ticket qualificatif pour ce groupe, le Zimbabwe, qui n'est pas encore qualifié, mais qui a déjà pris une très très bonne option. Les Léopards de la RDC qui avaient chuté à domicile, rappelez-vous, avant d'aller faire un nul à Harare, ont tout intérêt à aller bien négocier cette rencontre face à une formation qui leur a souvent fait poser des problèmes à Brazzaville. Malgré la victoire 3-1 de la République démocratique du Congo en première journée contre Brazzaville. RDC Congo-Brazzaville, ça a toujours été chaud par rapport au contexte, par rapport à la rivalité entre les deux sélections des deux rives. On s'attend donc à un match très, 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 très disputé entre les deux Congos, surtout que l'enjeu sera de taille.
Merci bien Thierry. Une CAN 2019 qui, on le rappelle, se jouera entre 24 équipes au lieu de 16 comme précédemment. Une commission d'inspection est au Cameroun depuis hier et va y séjourner jusqu'à demain pour évaluer l'avancée des travaux préparatifs. Nous allons en parler tout à l'heure, mais bien avant, suivons ce reportage de notre correspondant sur place à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Les sites d'Olembe, en zone périphérique de Yaoundé, Garoua, dans le nord, et Bafoussam, dans la région de l'ouest, sont concernés par cette ultime visite de la mission d'inspection de la CAF. Le gouvernement camerounais a opté de faire bonne figure pour convaincre la délégation que conduit le Ghanéen Anthony Bafoué sur l'état d'avancement des travaux. L'équipe des inspecteurs de la CAF a touché la première réalité du terrain hier, au stade d'Olembe, qui devra abriter les matchs d'ouverture et de clôture de la compétition. Le stade d'Olembe a une capacité d'accueil de 60 000 places assises. La pose des chaises sur les gradins y est effective à 70%. La mission d'inspection de la CAF se rend ce lundi à Garoua, mardi à Bafoussam et mercredi à Douala. 34 stades, parmi lesquels 7 devant accueillir la compétition, sont en phase terminale, a précisé le ministre camerounais des Sports, Bedung Pat, au cours d'une conférence de presse vendredi dernier. L'État camerounais a sollicité un emprunt obligataire de 107 milliards de francs CFA pour attraper les retards sur les chantiers. Yaoundé, Emmanuel Jules Mtap, VOA Afrique.
Alors, Jules, trop de bruit autour de cette CAN Cameroun 2019. Très rapidement.
Oui, il fait du bruit autour de cette CAN où on a un peu oublié que le Cameroun tenait le bon bout sur le plan juridique, et c'est-à-dire le changement de cahier de charge est à son avantage. Et comme l'a dit le président de la CAN, de la CAF, pardon, la dernière fois, et on attend ce que le Cameroun va nous dire.
Merci bien, Jules Valentin Goué, depuis Libreville au Gabon. Je rappelle qu'on était aussi en compagnie d'Élisée Oumpatine au Bénin, Thierry Kambouni de Top Congo FM depuis Kinshasa, Amdine Sy dans l'Ohio ici aux États-Unis, et avec également Amine Birouk depuis Casablanca. Merci messieurs de votre présence ce soir. Yacouba Ouedraogo vous a présenté cette émission. Joselle Morissin l'a réalisée. On se dit à lundi prochain.